Donc mettre en place une communauté de recherche philosophique, c'est une terminologie un peu barbare, mais c'est justement, Philippe Lenis vous disait tout à l'heure, ça a commencé cette aventure aux États-Unis à la fin des années 70, et c'est la terminologie de Lippmann, c'est le nom du bonhomme que je vous ai mis en bas. L'idée, c'est pas... Alors, communauté en France, on imagine tout de suite un feu de camp et puis des guitares. C'est pas tout à fait ça son idée. C'est la traduction nous emmène vers quelque chose de différent. Son idée, c'est vraiment de mettre en place des laboratoires de recherche philosophique, et ce, avec les plus jeunes. Donc, l'histoire de Lippmann, c'est un épistémologue, donc un professeur de philosophie des sciences, qui donnait des cours à l'université de Columbia et qui s'est aperçu qu'à la fin de ses cours, ses élèves étaient plus rationnels, mais ils n'étaient pas forcément plus raisonnables. Et comme pour lui, la philosophie, c'était pragmatique, il s'agissait de partir du faire et pas de partir de la théorie, il s'est dit qu'il fallait qu'il change sa méthodologie. Et donc, il a fabriqué une méthodologie pour faire avec des enfants. Il s'est dit, il faut peut-être commencer plus tôt l'apprentissage, notamment de la logique. Parce que la logique, peut-être vous n'avez jamais eu d'apprentissage formel de la logique, mais on en a tous. À partir du moment où on fait un peu de grammaire et un peu de mathématiques, on a tous une structuration logique. Et donc, il a fabriqué des romans pour faire de la philosophie à partir de 10 ans. Donc c'est une expérimentation qui s'est menée, je vous dis, fin des années 70. Et puis ça a été repris par l'équivalent d'une professeure de sciences de l'éducation pour nous, qui est Anne-Margaret Sharp, et ils ont étoffé le programme. Donc c'est un programme qui a été disponible aux États-Unis, qui existe encore un peu, mais de façon assez... assez diffuse. C'est pas un programme, c'est pas tout un État, et puis c'est certainement pas tous les États-Unis qui le pratiquent. Mais en tout cas, cette aventure démarre là. Alors, pour la présentation, il y aura un peu deux grands moments. Il y a un premier moment qui est à quoi ça sert de faire des discussions philo, pourquoi est-ce qu'on a envie de se lancer dans cette aventure-là. Et puis, la deuxième partie qui sera un peu plus technique, c'est quand on se lance, à quoi on va faire attention. Donc, on va commencer par un repérage à grands pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par discussion philosophique et atelier philosophique? Parce que sous ce mot-là, on peut mettre plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on veut en faire? Quelles précautions selon le public? Et puis après, vraiment des choses un peu techniques, un peu de l'outillage, quoi. Conseil à la mise en place en termes de dynamique de groupe et puis aussi en termes de dynamique de la recherche, puisqu'il s'agit d'en faire pas seul devant son papier, comme nous on a connu en terminale, mais il s'agit de faire en groupe et de faire à l'oral, en discutant. Donc, première chose, qu'est-ce que quoi? Alors, un atelier de discussion philosophique, c'est à distinguer d'un débat d'idées. En général, quand on dit, souvent on dit débat philo, et quand on dit débat philo, nous, ce qui nous vient, c'est l'image du débat. Et l'image du débat, c'est l'image du débat politique, où il s'agit de convaincre l'autre. Là, on va essayer de ne pas faire ça. L'objectif, ça n'est pas de convaincre l'autre. Du coup, on va essayer d'éviter les sujets à chaud, on va essayer d'être pas sur des sujets trop émotionnels. Parce que, alors souvent on a envie de faire ça, quand on a envie de lancer un atelier philo, on se dit on va lancer une question d'actualité. Il y a un problème avec la question d'actualité, parce que premier problème, c'est qu'on n'a pas tous le même niveau d'information. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont se sentir pas assez qualifiés pour participer à la discussion. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, deuxième problème, en fait, dans un sujet d'actualité, très souvent, ce qui nous vient, c'est notre opinion et non pas notre pensée. C'est quelque chose que je pense déjà. C'est une pensée qui s'arrête, qui est arrêtée, et puis j'ai envie juste de mettre mon opinion dans la tête de l'autre. Mais j'ai pas envie, pas forcément envie, que mon opinion évolue. Et l'idée de l'atelier philo, c'est justement d'aller regarder comment ça fonctionne pour moi, plutôt que de convaincre l'autre. Souvent aussi, quand on dit discussion philo, comme nous, on modélise beaucoup sur l'expérience de la terminale. En fait, en terminale, il se passe beaucoup de choses. Normalement, vous avez vu trois grandes choses pendant cette année. Vous avez vu l'histoire de la philosophie, donc ce que les auteurs ont dit. Donc, vous avez fait 2400 ans d'histoire de la philosophie en une année. Vous avez appris à faire une dissertation, donc vous avez appris à rédiger, donc à organiser des idées à l'écrit. Et puis, s'il reste du temps, mais ça, c'est souvent le parent pauvre de l'année de terminale, vous avez fait de la méthodologie de la pensée. Vous allez voir que ce dont on parle, on est plutôt sur cet axe-là. Donc, une discussion philo, c'est pas forcément, ça peut l'être, mais en tout cas, dans la méthode Lippmann, on n'est pas sur une discussion orientée histoire de la philo, c'est-à-dire avec des réponses préétablies. Et puis, plus on s'approche d'une réponse qui a été donnée par un auteur, et plus on a bon. C'est pas ça, là, la dynamique. Donc là, on est plutôt sur une discussion philosophique orientée du côté de la recherche, donc de l'épistémo, du comment je sais quelque chose. Et donc avec ça, on va avoir des thématiques beaucoup plus ouvertes. On n'est pas obligé de se cantonner aux grandes notions qu'on nous a apprises au moment du bac, la liberté, la justice, la conscience, la mort, enfin... Je pense que c'est un peu les idées qui nous viennent quand on dit philosophie. On n'est pas obligé d'aller chercher dans ces grandes thématiques. On peut partir de thématiques beaucoup plus triviales en apparence. Il n'y a pas de réponse préécrite, donc il n'y a jamais quelqu'un qui a raison. Par contre, il peut y avoir des erreurs dans le processus de recherche. Je peux aller trop vite en besogne. Je peux avoir l'impression d'avoir démontré quelque chose, alors que dans ma démonstration, il manque des étapes. Et c'est surtout ça, en fait, c'est cette articulation de comment je pense que vont accentuer les discussions philo de méthode Lippmann. Donc l'idée, c'est pas d'apprendre ce que quelqu'un a pensé, mais c'est de regarder comment je pense et d'apprendre à affiner ma pensée. Et comme ça se fait en groupe, au passage, je vais aussi pouvoir accompagner les autres à affiner leurs pensées, à rajouter des étapes. Pourquoi faire des discussions philo ? Alors la première chose, c'est un mot un peu barbare, c'est de l'empowerment et puis de la confiance en soi. C'est vraiment se dire que finalement, je suis capable de faire des choses. Première chose, c'est je pense. Et puis ça paraît idiot, mais en fait, quand on se lance dans une discussion philo, en français, on dit toujours « je pense que », puis de l'autre côté de notre « je pense que », en général, on donne une opinion. Donc quelque chose qui, finalement, est de la pensée arrêtée. Quand on se lance dans les discussions philo, et ça, qu'on soit enfant, ado ou adulte, tout à coup, « je pense ». Et ça, mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Tout à coup, il m'arrive une idée qui est nouvelle. Tout à coup, je suis en train de faire du lien avec le monde qui m'entoure. Et c'est quelque chose de... je suis en train de penser le monde différemment. Je suis en train de m'apercevoir que... Ben oui, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ma tête. Et ça, ça vous donne... ça a un impact sur la confiance en soi. Parce que tout à coup, je suis auteur de ma pensée. Je ne fais pas juste répéter ce que j'ai entendu. Je ne fais pas juste être d'accord avec quelqu'un. Mais je suis créatif dans ma pensée. Donc quand je vous dis prendre sa pensée au sérieux, c'est pas l'esprit de sérieux, c'est pas l'idée de parler avec des gros mots et d'épater les autres, hein, c'est pas ça. Quand je dis les gros mots, c'est genre épistémologie, c'est un gros mot. Vraiment un mot que tout le monde ne comprend pas forcément au premier abord ce que ça veut dire, parce que c'est un mot technique. Hein, l'idée, c'est pas de se prendre au sérieux, c'est de prendre ma pensée au sérieux. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, est-ce que je le pense, ce que je suis en train de dire, et jusqu'où je le pense ? Deuxième chose, c'est un rapport au savoir qui peut être un peu différent parce que là, la question, elle est signe de richesse. Si j'ai une question, c'est pas que je ne sais pas et que j'aurais dû savoir, c'est justement ce qui va faire que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir s'y intéresser tous ensemble à cette question. Donc plus j'ai de questions et plus il va se passer de choses positives. Alors qu'en général, dans un rapport au savoir, on est plutôt, si j'ai des questions, c'est que je suis néophyte, c'est que je n'en sais pas encore assez. L'idée aussi dans la méthode de Lippmann, c'est de déclencher un plaisir de la pensée. Donc il y a vraiment quelque chose de rendre cette chose-là le plus active possible. Et si on veut qu'on l'active sans y être forcé, il faut que ce soit plaisant. Il y a vraiment et il y a des émotions liées à la pensée. Hein. Parfois on oublie ça quand on est dans un contexte un peu scolaire. On se dit que penser c'est du travail, c'est du travail, mais c'est aussi un plaisir. C'est ça qu'on va essayer d'aller activer. Il y a un dernier effet qui est un effet de cohésion d'équipe et de compétences démocratiques parce que ça se fait en groupe. Donc l'idée, c'est pas juste moi je pense tout seul dans mon coin, c'est de voir que en entendant la pensée des autres, ça m'interroge sur ma façon de penser à moi. Donc plus je vais écouter finement ce que dit l'autre, plus je vais pouvoir progresser dans mon fil de pensée. Pas forcément pour penser la même chose, il ne s'agit pas d'être d'accord, mais il s'agit de voir pourquoi on n'est pas d'accord. En quoi nos deux constructions sont différentes. Hein, donc il y a vraiment quelque chose où tout à coup on va être sur une écoute plus fine que dans le débat. Dans le débat, il s'agit juste de se rendre compte qu'il y a des différences et puis on va essayer de niveler les différences. Là, on va s'appuyer sur les différences pour comprendre qu'est-ce qui vient derrière. Alors je vous ai mis écoute active parce que oui, ça va développer. Esprit critique, puisque l'idée c'est d'aller voir les raisonnements, comment les raisonnements ont été construits. Donc il ne s'agit pas d'accepter une idée parce qu'elle est plaisante. Je peux être d'accord avec quelque chose et quand même me dire que l'argumentation qui m'est présentée est mal construite. Donc on n'est plus sur est-ce que je suis d'accord ou est-ce que je ne suis pas d'accord, on est sur est-ce que c'est recevable ou est-ce que c'est irrecevable. Est-ce que vraiment il y a un fil qui est là et qui est exigeant, qui est bien construit, ou bien est-ce que c'est juste deux idées mises bout à bout. Et même si elles sont séduisantes, elles ne sont pas forcément recevables. Bienveillance, parce que ben en effet il va falloir un moment. Alors je vous ai mis principe de charité, ça c'est du vocabulaire philosophique, on a ça en philosophie. Alors c'est pas tout à coup vous sortez un euro et puis vous le donnez à votre voisin. Le principe de charité, c'est de partir du principe que quand quelqu'un me dit quelque chose, il y a du sens derrière ce qu'il dit. j'ai pas compris. Ça, peut-être parfois j'ai l'impression que ça n'a pas de sens dans le quotidien. Quand quelqu'un dit quelque chose et que je le comprends pas, en général on se dit que l'autre est un crétin. C'est ça la conclusion qui nous vient. Là, il va falloir appliquer le principe de charité. Donc, si je n'ai pas compris, si ça n'a pas d'intérêt, ce que je viens d'entendre, c'est que je n'ai pas compris ce qui est derrière. Et donc, il va falloir que je m'ouvre un peu et puis que j'aille interroger l'autre pour dire « Mais pourquoi est-ce que tu dis ça ? Qu'est-ce qui fait que tu dis ça ? Il y a forcément quelque chose qui est intéressant dans ce que tu viens de dire puisque tu viens de le dire. » Donc, ça aussi, ça fait un peu la boucle avec prendre sa pensée au sérieux. Quand je dis quelque chose, c'est que j'ai quelque chose à dire. C'est qu'il y a quelque chose qui est là derrière. Alors, quelques précautions. La première précaution à prendre quand on veut mettre en place des discussions philo, c'est le rapport à ce qu'on appelle la scolée, c'est-à-dire à ce moment du scolaire, le moment du luxe où je vais juste apprendre et où je suis un peu détachée des contingences matérielles. Je vais faire quelque chose qui n'est pas productif au sens où ça ne va pas remplir mon frigo. C'est pas pour ça que je suis en train de faire ça. Et ce sont des conditions particulières. On n'est pas toujours tous en position de faire de la scolée. Par moments, on est aussi pris beaucoup trop par le quotidien. Et ça n'est pas capable, ça n'est pas possible pour moi de prendre le temps de faire quelque chose qui ne sera pas productif de façon matérielle. Donc, il va falloir bien poser ce cadre-là. C'est que quand on commence un atelier philo, ben, on est là pour se faire plaisir, pour réfléchir, mais c'est pas forcément un objectif pragmatique à court terme. Je suis pas là, ça va pas forcément me donner une information, ça va pas forcément me donner une réponse. On va choisir une question, mais on n'aura pas de réponse à notre question. On aura des éléments, on aura des pistes. Chacun va pouvoir se construire sa réponse, mais il y a peu de chances qu'on se dise ok, donc à cette question, on peut répondre ça, et puis on l'encadre en rouge et c'est traité. Donc c'est pas là-dedans qu'on s'engage. Et ça peut générer des frustrations. Il y a intérêt à poser le cadre avant de se lancer. Par contre, il y a une utilité à faire ça. La philo, en effet, ça sert à rien. Et finalement, ça sert à tout. C'est un peu comme quand vous allez faire des longueurs à la piscine. Ça sert à rien. Vous n'y allez pas pour le décor. C'est moche. Ça sert à rien. Vous sentez le chlore quand vous sortez. Mais au moment où vous devez attraper votre bus, ben, vous courez plus vite. Donc ça sert quand même. Donc c'est vraiment ça. L'idée, c'est d'aller muscler quelque chose que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Mais au moment où vous musclez, ben, on voit pas vraiment le bénéfice. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est soyons ambitieux. Il y a des moments où on va en fait, et très souvent, quand on s'adresse à d'autres, on a l'impression que la philosophie, c'est une discipline élitiste. Et c'est vrai, l'image de la philosophie, c'est quelque chose d'élitiste. Donc on se dit, on peut pas en faire avec tout le monde. Moi, je fais à peu près les mêmes genres d'ateliers. Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Ça, c'est un classique. Bon. Vous aviez lu le petit machin. Bon. Oui, il faut quand même que je vous dise que ces ateliers, on en fait... Enfin, moi, j'en fais à partir de moyenne et grande section de maternelle, donc 4-5 ans, et puis avec toutes sortes de publics. Donc des publics précarisés, protection judiciaire de la jeunesse, école de la seconde chance, classe relais, donc pour les décrocheurs scolaires, classe SECPA, enseignement spécialisé, adultes usagers, anciens usagers d'hôpitaux psychiatriques, foyers jeunes travailleurs, réinsertion, donc action de réinsertion, donc autour du l'ancien RMI, je ne sais plus les termes que j'ai aujourd'hui, RSA, voilà. Donc avec vraiment toutes sortes de personnes, mais j'en fais aussi avec des futurs, dans un master de ressources humaines, j'en fais aussi avec les futurs ingénieurs de l'école centrale à Paris, j'en fais aussi avec des enseignants. Donc en fait, qu'on soit dans un rapport scolaire très évident ou très lointain, on va faire la même chose. Parce qu'au moment de faire des ateliers philo, ce qui compte, c'est comment je pense. Et au moment de s'interroger sur comment je pense, ben, c'est pas du tout la réussite scolaire qui nous outille plus que ça. C'est finalement quelque chose d'assez contre-intuitif et d'assez peu exploité chez nous. Donc on est tous aussi mal, enfin on a tous, au moment de faire l'atelier philo, on va patauger à peu près tous de la même façon dans les exercices. Donc soyons ambitieux, c'est pas parce que je suis face à quelqu'un qui n'a pas un rapport facile avec le scolaire qu'il faut que je fasse quelque chose qui me paraît simple. Et inversement, c'est pas parce que je suis face à quelqu'un, un public qui a un rapport scolaire hyper haut, qu'on est obligé de parler avec des mots compliqués. C'est pas la complication du mot qui va faire la qualité de la discussion. Et je vous disais parfois, de partir d'une question un peu triviale, ça va faire que je vais réfléchir beaucoup plus parce que j'ai pas une réponse toute faite à cette question-là. Donc soyons exigeants et puis portons l'exigence sur l'activité et non pas sur les compétences scolaires. Hein, je vous disais, c'est pas parce que j'utilise un gros langage que j'ai bien fait, ou c'est pas parce que j'utilise un langage très quotidien, un langage un peu SMS, que je suis pas en train de bien travailler. Hein, donc il faut vraiment remettre la focale sur quel est mon objectif, qu'est-ce que je suis en train de faire, et puis c'est juste ça que j'évalue au moment de la discussion philo. Dernière précaution, il va falloir faire attention à nos supports, à nos points de départ. Alors, il faut en effet un petit peu adapter à l'âge, parce qu'on n'a pas les mêmes préoccupations selon l'âge. Il faut adapter un petit peu aux intérêts de chaque... Ouh, avec une jolie faute d'orthographe. Pardon. Donc, aux intérêts avec un S de chacun. Mais en même temps, parfois on fait, donc je vous disais autour des questions d'actualité, parfois on va vers des questions un peu de façon un peu trop frontale. Hein, on a l'impression qu'une bonne idée, quand on s'adresse par exemple à des jeunes qui ont des problèmes de violence, c'est de dire « qu'est-ce que la violence ?» Et bien ça marche pas. C'est parce que s'ils ont envie d'en parler, c'est eux qui en parleront. Mais si on pose la question de façon frontale, en général, ce qu'on va récupérer, c'est du politiquement correct. C'est du « ce qu'il faut dire » et non pas « qu'est-ce que j'en pense ?» Donc parfois, il va falloir faire un détour. Parfois, ça va être en effet au moment de choisir quelle est la question qu'on propose, comment est-ce qu'on amorce notre discussion. C'est assez contre-intuitif. En général, les bonnes idées qu'on a, ce sont de mauvaises idées. Il vaut mieux partir, je vous dis, de choses très quotidiennes, ou alors dans la méthode Lippmann, on a une dynamique pour que les participants fabriquent eux-mêmes les questions. Et là, du coup, plutôt que d'apporter nous la question en allant à tâtons, vous avez quelques petits filets de sécurité. Donc et ben là, on démarre les conseils à la mise en place. Donc première chose, c'est une dynamique de groupe. Il va falloir du coup prendre en compte toutes ces questions liées à la dynamique de groupe. Hein. Donc même si j'ai fait des grosses études de philo, il va falloir que je pense bien à me reposer ces questions-là. Et par contre, si je travaille, j'ai jamais fait de philo, mais je travaille déjà dans la pédagogie, il est possible que ces questions-là, en fait, je les ai déjà en tête. Hein. Donc finalement, quel que soit notre profil, il va falloir qu'on se pose de nouvelles questions. Première chose, c'est la taille du groupe. En dynamique de groupe, on sait que plus on est nombreux et moins il y a de participants actifs. Quand je dis actif, en fait, c'est sonore, hein, parce que vous pouvez être actif dans le silence. Mais si vous avez 12 personnes, peut-être qu'il y a 2 personnes qui ne vont pas prendre la parole. Si vous avez 24 personnes, peut-être il y a de fortes chances qu'il y ait 8 personnes qui ne prennent pas la parole. Hein, donc c'est exponentiel. Plus on est nombreux et moins il y a de gens qui vont réussir à prendre la parole. La co-animation, elle est préférable si vous vous lancez, si vous vous dites « bon, ok, moi demain j'essaye de faire un atelier philo », je vous conseille de vous mettre à deux. D'abord parce que il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à gérer, et puis parce que comme ça vous aurez un regard extérieur sur ce qui s'est passé. Hein, parce que généralement quand on est dans le... ça c'est valable pour la philo, mais c'est valable pour tout ce que vous entreprenez de nouveau. En fait, quand on se lance dans une nouvelle activité, à la fin de l'activité, on ne sait plus très bien ce qu'on a fait. En général, ce qui nous reste, c'est une sensation, c'était super ou c'était raté. Ok, mais qu'est-ce qui était raté? Qu'est-ce qui était super? Quels sont les éléments qui me font dire que, bah oui, ça a bien fonctionné, je le récupère et je le réutilise la prochaine fois. Et puis, qu'est-ce qui fait que là, ça a raté? Est-ce qu'on arrive à analyser quel est l'élément qui fait que ça a raté et comment est-ce qu'on fait levier sur cet élément-là? Des objectifs clairs pour l'animation, parce que des fois on veut faire trop de choses en même temps. Alors qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? De petits objectifs, hein, vraiment. Est-ce que... Et puis il y a une chose, alors ça paraît idiot, mais ça m'est déjà arrivé en retour de futurs animateurs, où il y a des gens qui veulent évaluer le groupe à la première séance. Bon, première séance, faut aussi changer de discipline. Alors là, comme on est dans du français, en fait, comme on a entendu parler, on a l'impression que les compétences sont déjà là. Donc, on a envie d'évaluer les compétences. Ce qu'on peut faire, c'est évaluer où chacun en est avec une grille de critères, puis reprendre cette même grille 4 ou 5 séances plus tard et voir les évolutions. On peut évaluer une évolution. Mais on n'évalue pas un groupe le premier jour de... C'est comme si vous... Je ne sais pas, si vous êtes prof de musique, je pense que vous ne mettez pas de notes la première fois où quelqu'un touche un violon. En général, la première fois où on touche un violon, on ne fait pas de la musique. On est en train de découvrir un instrument et ça fait du bruit. Bon, là, c'est pareil. Hein. Donc, des objectifs clairs. Qu'est-ce qu'on veut pour aujourd'hui? Est-ce qu'on veut inviter chacun à prendre la parole? Ça, c'est un objectif de dynamique de groupe. Et c'est déjà un gros objectif. Une disposition en cercle. Alors, ça, c'est pareil. Ça paraît... C'est du pratico-pratique. Sauf que vraiment, si vous mettez les gens en ligne, il y a de grandes chances qu'ils attendent que ce soit vous qui parliez. là on a choisi cette disposition là il se trouve que c'est en effet moi qui parle, et je pense que il y a un moment, si nous reste un peu de temps tout à l'heure, on essaiera d'en faire un petit peu. La disposition risque de nous gêner un peu, hein, si on veut que tout le monde ait la parole et si on veut que chacun se sente invité, ben, il faut se mettre en cercle, il faut que tout le monde puisse voir tout le monde. Et vous allez voir qu'en termes de discipline aussi, d'écoute, en fait, la disposition en cercle favorise ça. Parce que si je vois tout le monde, bah, je peux m'intéresser à ce que chacun dit. En tout cas, c'est plus facile. Si tout à coup, quelqu'un parle au bout de ma ligne, puis je ne le vois pas, là, si Philippe Lenis dit quelque chose et je ne le vois pas, bah, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais me mettre à discuter avec mon voisin parce que je n'entends pas bien ce qu'il dit et je n'arrive pas à le voir. Des observateurs et des participants, ça c'est quelque chose aussi sur lequel vous pouvez vous appuyer. On sait qu'en dynamique de groupe, le chiffre idéal c'est 12 participants. C'est pas toujours possible d'avoir entre 8 et 12 participants. Hein, donc si vous avez plus de 12 participants, ce qu'il est possible de faire, c'est de nommer des observateurs. Et vos observateurs, c'est aussi utile pour vous parce que ça vous fait presque une co-animation, hein, petit à petit. Alors il va falloir former ces observateurs à l'observation. La première fois, ce qu'ils vont vous dire avoir vu, ce ne sera pas forcément les choses qui vont vous aider à animer, mais petit à petit, quand l'observateur arrive à voir ce qu'il doit regarder, ça vous fait un retour sur ce qui s'est passé, et un retour, s'ils sont déjà en capacité de prendre des notes, ça vous fait un retour écrit sur ce qui vient de se passer. L'appui sur le groupe pour gérer certaines tâches, parce que vous allez voir qu'en dynamique de groupe, eh ben oui, vous allez avoir des gens qui vont être des aides assez rapidement. Hein, par exemple, même avec une disposition en cercle, quand on anime, moi ça m'arrive très souvent, je vois moins bien les gens qui sont assis juste à côté de moi. Et vous allez voir que dans le groupe, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vous va dire « machin, a levé la main ». Hein, donc vous allez pouvoir vous appuyer sur le groupe pour certaines tâches. La gestion de la parole, alors ça c'est une question assez complexe parce qu'il y a plusieurs méthodologies. Certains notent les tours de parole. Donc on note qui a levé la main quand, et puis on donne vraiment la parole en fonction de l'ordre d'arrivée. Sauf qu'en général, ça vous donne une discussion assez décousue. Parce que quelqu'un dit quelque chose, il y a 5 mains qui se lèvent, et puis je vais vers la première main qui dit quelque chose, et puis il y a encore des mains qui se lèvent, et là je vais toujours vers la deuxième main qui s'est levée de tout à l'heure, et donc ça me donne quelque chose qui va faire des effets retour pendant la discussion. On va avoir l'impression que on revient toujours à cette même question alors qu'il y a plein d'autres pistes qui ont été lancées. Donc ça, c'est un problème. Il va falloir trouver une façon de gérer la parole qui fait que chacun va pouvoir participer et en même temps sans donner de... Enfin, c'est pas juste ceux qui rebondissent rapidement qui doivent avoir la parole. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'invitation à chacun de parler, et en même temps il va falloir trouver une façon de pas juste donner dans l'ordre, parce que en donnant juste dans l'ordre, ça fait que la dynamique de la discussion ne va pas pouvoir avoir lieu. Il y a des petites règles implicites dans cette dynamique de groupe. On n'est pas obligé de les énoncer clairement dès le début. C'est au choix de l'animateur. Vous pouvez les énoncer au moment où vous les utilisez, au moment où on touche cette bordure. Moi, c'est plutôt ce que j'aime faire, mais ça, c'est vraiment au choix de chacun. En tout cas, les règles de gestion de la parole, c'est on a le droit de se taire. Je peux passer toute la séance, voire 4 séances, à ne pas ouvrir la bouche, et j'en ai le droit. L'animateur, au bout d'un moment, va aller chercher un peu la personne, lui proposer, lui tendre une perche, parce qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans le rôle du muet. Mais en tout cas, j'ai le droit de me taire. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas au travail. Je peux vraiment être juste dans une écoute active. Et puis, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, ça me fait réfléchir. Et donc, je pense beaucoup. Il se passe plein de choses ici. Mais je n'ai pas le temps de mettre du son dessus. Hein, donc, j'ai le droit de me taire. Il y a une priorité à celui qui a le moins parlé. Hein, donc, s'il y a plusieurs mains qui se lèvent et que s'il y a une main qui se lève pour la première fois, eh ben, on va plutôt aller vers cette personne-là. Et puis, ben, il y a une règle, mais qui est finalement la règle de chaque fois. On laisse la personne aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut dire. Hein. On essaye de ne pas interrompre quelqu'un qui parle. Et on essaye de ne pas interrompre, même si c'est pour aider. Parce que parfois, on veut interrompre avec une bonne intention. N'empêche que la personne n'a pas eu le temps de dire son idée jusqu'au bout. Et même si je pense avoir deviné son idée de façon schématique, ben, je n'ai pas deviné son idée de façon précise. Donc vraiment, on laisse à chacun le temps d'aller jusqu'au bout de ce qu'il veut dire. La gestion du temps, je vous ai mis intra et intercession. Alors, on sait que ça se muscle, c'est une concentration assez particulière, cet exercice de faire ces discussions philo, mais On sait qu'il y a une concentration qui se muscle. Je vous parlais tout à l'heure du groupe qu'on avait avec, on était en binôme, avec les usagers, anciens usagers d'hôpitaux psychiatriques. C'était un public adulte. Nos rendez-vous, c'était en soirée, donc c'était à partir de 19h30. La première séance qu'on a fait avec ce groupe-là, ça a duré 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il n'y avait plus de concentration. Tout le monde était fatigué. On s'est dit, OK, on arrête. Donc vraiment, le temps, en fait, de votre séance, c'est le temps de concentration. C'est votre temps de concentration aussi en tant qu'animateur. Si vous êtes en saturation, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et c'est le temps de concentration du groupe. C'est un groupe qui a tourné pendant plus de 3 ans. À la fin de la deuxième année, ça commençait toujours à 19h30 et on s'arrêtait vers 21h30 parce qu'on avait faim. C'était les mêmes personnes. Au début, on s'était dit, mais c'est aussi des personnes où il y avait des médicaments qui peuvent gêner la concentration, qui augmentent la fatigue. Donc on s'était dit, on a un problème de concentration sur ce groupe et nos séances seront courtes. Je vous dis, au bout de 2 ans, ça durait 2 heures et puis ça aurait pu durer plus, mais à un moment, il fallait qu'on aille manger. La gestion du temps intra et intersession, parce que, je vous disais, on ne fait pas de la philo en une fois, on découvre la philo en une fois, mais si vous voulez vraiment qu'il y ait un processus qui se mette à l'œuvre, c'est comme pour n'importe quoi, il va falloir en faire plusieurs fois pour que ça puisse se développer. Il y a une étude qui a été faite au Québec, en fait, ils ont testé d'offrir 12 séances à un groupe, 12 séances mensuelles à un groupe, et puis 6 séances hebdomadaires à un autre groupe, et il y a plus, enfin, ils ont fait sur plusieurs groupes, mais il y avait une partie du panel qui avait 12 séances mensuelles et puis l'autre partie du panel avait 6 séances hebdomadaires. En fait, ceux qui avaient 6 séances hebdomadaires ont plus progressé sur les compétences philo que ceux qui avaient 12 séances mensuelles. Donc il y a un rythme qui fait que l'apprentissage, en fait, il y a un petit rituel qui va se mettre en place, et puis plus le rythme, donc une semaine, c'est bien, quoi. Vous allez bénéficier plus, ça va mieux rentrer que si c'est trop espacé. Si c'est trop espacé, en fait, il va falloir reposer le cadre de chaque fois parce qu'on aura oublié le cadre. Donc, si vous avez peu de séances, si vous dites, moi, je veux consacrer 4 fois 1 heure à ce projet, essayez de rapprocher vos séances. Vous ne faites pas une séance en septembre, une autre en janvier. Là, vous êtes à peu près sûr de faire 4 séances solo plutôt que de faire 4 séances, en fait. La gestion des participants difficiles, on y reviendra peut-être si vous avez des questions là-dessus, mais vous pouvez aussi avoir, dans un groupe, il y a des typologies particulières, c'est un peu toujours les mêmes d'ailleurs, dans quel que soit le groupe, il y a toujours quelqu'un qui est le grand timide et qui parle pas, et c'est un problème. Au bout d'un moment, ça devient un problème parce qu'on se dit, mais quand même, qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Et puis, il peut y avoir la typologie du participant qui parle beaucoup, mais qui parle tellement qu'en fait, ça gêne la participation des autres. Alors, en général, c'est ce profil-là qui nous gêne le plus au démarrage, en tout cas, puisque les timides, on se dit que peut-être petit à petit, ils vont venir tout seuls et ce sera plus un problème. Les participants difficiles, très souvent, il faut responsabiliser, quoi. Plus vous donnez de tâches, plus vous donnez de mandats, plus vous donnez d'objectifs difficiles à quelqu'un, et plus sa participation va se restreindre, en fait. C'est une façon de valoriser aussi la personne, c'est de lui dire, de toute façon, toi, prendre la parole en public, c'est acquis, t'as pas de problème pour prendre la parole en public. Par contre, maintenant, je te donne un mandat plus compliqué. Maintenant, tu vas prendre la parole et tu vas essayer d'annoncer ce que tu vas faire au moment où tu le fais. Par exemple, tu vas essayer de dire si tu veux faire une hypothèse, si tu veux faire un contre-exemple, si tu veux identifier une conséquence. C'est hyper difficile à faire, ça. Donc ça veut dire qu'on donne un mandat plus compliqué et puis on regarde si la personne arrive ou n'arrive pas. Mais par contre, vous valorisez la difficulté, vous annoncez bien que c'est très difficile, et donc du coup, la normalité, ce serait qu'on n'arrive pas à le faire puisque c'est très difficile. Et c'est un peu toujours comme ça en discussion philo. La normalité, c'est qu'on est en train de faire de la philosophie, quoi. La normalité, c'est qu'on n'y arrive pas. Et donc, si on est arrivé un peu, c'est ça qu'on valorise. Donc, on peut être très, très ambitieux parce que la normalité, c'est ça va pas marcher. Évidemment, ça marche. Mais en tout cas, on va pouvoir valoriser les tout petits pas. Et ça vous fait de la pédagogie personnalisée parce que selon ce que je sais déjà faire, ce que je vais faire de nouveau sera valorisé. Donc, si j'ai déjà plein d'aisance pour prendre la parole en public, si j'ai déjà plein d'aisance pour construire ma pensée, si j'ai déjà une pensée qui met bien toutes les étapes, je peux toujours complexifier. Je peux toujours essayer maintenant d'écouter la pensée de l'autre, parce que ça, en général, c'est pas les mêmes compétences. Je peux toujours essayer d'apprendre à reformuler ce que vient de dire l'autre, donc de redire ce qu'il veut dire, ce qu'il vient de dire, mais avec d'autres mots, voire avec des critères. Donc, vraiment de mettre en lumière où est intéressant. Enfin, qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de dire? C'est quoi son critère? Quelle est vraiment la chose qui fait que ce qu'il vient de dire, ça fait basculer? Donc pour gérer des participants difficiles, bah, on leur demande plus. On leur demande de faire plus de travail que les autres. Des petits, toujours sur la dynamique de la recherche, là c'est plus sur les participants et la mise en place des participants, c'est sur l'animateur. La première chose, c'est la posture non jugeante. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que c'est qu'une posture non jugeante? La première chose, c'est de faire attention à vos attentes et de faire attention à vos opinions. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir un problème au moment de choisir l'amorce de la discussion philo. C'est que si c'est vous qui amenez la question, vous risquez d'avoir des attentes. Vous risquez de vous dire quand même sur cette belle question, il y a ça qui est intéressant à dire. Et si vous cherchez ça, vous risquez de casser la dynamique de groupe. Parce que vous risquez de tirer vers la phrase que vous avez envie d'entendre, vers la réponse que vous avez envie d'entendre. Et ça, ça fait que bah, finalement, au bout d'un moment, le groupe va se dire, bon bah, si ce qu'on dit n'est pas pertinent, et si l'animateur sait déjà ce qu'il faut dire, laissons-le parler. Hein, qu'il nous donne cette réponse plutôt que de nous la faire choisir. Attention à vos opinions aussi, parce qu'au moment où on anime, on aimerait être impartial, mais en général, on a tendance à ne pas questionner les choses avec lesquelles on est d'accord, et on va dire ah oui d'accord, et puis questionner beaucoup plus les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc du coup là les participants risquent, s'ils sont questionnés, ils vont dire ok, donc j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, parce que bien sûr tous les participants partent du principe que c'est vous qui avez toutes les réponses et toutes les bonnes réponses, alors que finalement dans les discussions philo vous pensez quelque chose de la question, mais cette pensée elle n'est jamais que la vôtre, il y a d'autres constructions qui peuvent être valables et possibles aussi. Donc il va falloir faire attention à qu'est-ce que vous attendez de cette discussion. Et moi je vous conseillerais de ne pas arriver vous avec la question, parce que vous risquez de vous savonner la planche, et de ne pas bosser les questions avant de les proposer, de ne pas les pré-travailler. Donc attention à vos supports de départ, parce que bah oui, dans les supports de départ il peut y avoir des présupposés. Donc si c'est vous qui amenez la question, le groupe peut vraiment avoir l'impression que vous avez la question et vous avez aussi la réponse, donc à quoi bon courir? Laissons-vous travailler, on va vous laisser vous faire le travail, quoi. Dans les supports de départ, on peut aussi avoir des présupposés. Donc on commence à avoir pas mal de littérature autour de faire des discussions philo. Ils ne sont pas tous dans cet objectif de recherche philosophique. Vous avez pas mal de supports qui sont axés histoire de la philosophie. Donc finalement, mettre dans un langage accessible à tous des choses qui sont des réponses des philosophes. Donc si vous utilisez ces supports-là, vous risquez pas, enfin en tout cas ça va être plus difficile d'avoir une dynamique de recherche. Attention aux présupposés aussi, parce que vous avez des supports qui ne fonctionnent pas parce qu'ils sont monothématiques ou parce que ça donne une réponse. Vous avez des choses avec des gros présupposés. Si vous utilisez par exemple une fable, ça ne peut pas marcher parce qu'à la fin il y a une morale. Et c'est beaucoup plus difficile d'être en désaccord avec la morale ou de savoir même ce que j'en penserais. Puisque une fois que j'ai eu la morale, finalement ce qu'il faut en penser c'est ça. À la limite je peux peut-être penser en contre, mais penser de façon nuancée, c'est-à-dire est-ce que moi j'aurais fait un petit peu de la morale et un petit peu d'autre chose, ça devient beaucoup plus difficile. Donc attention à vos supports de départ et attention aux présupposés qui peuvent exister dans les supports de départ. Attention aussi dans la mise en circulation de la parole, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en débat et comme on modélise là-dessus parce que c'est un peu le seul modèle qu'on a à notre disposition, il y a très souvent chez de jeunes animateurs, moi je vois très souvent cette erreur de quelqu'un dit quelque chose et puis ça devient « et alors les autres, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et finalement c'est une invitation au jugement. Ça devrait être une invitation au jugement de la parole, et très souvent ça tombe, en tout cas pour celui qui vient de prendre la parole, le ressenti c'est une invitation au jugement de la personne. C'est-à-dire ce que je viens de dire, c'est pas malin, donc je ne suis pas malin. Bon bah là c'est pareil, votre dynamique de groupe elle est cassée, c'est fini. Donc on va essayer de distribuer la parole, d'inviter les autres à prendre la parole, sans les inviter à juger ce qui vient d'être dit, et encore moins de juger la personne qui vient de parler. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous invitez au jugement. Vous invitez au jugement peut-être de la parole, mais en tout cas, ce qui est ressenti de façon globale, c'est le jugement de la personne. Donc, on va plutôt dire, ça c'est ton hypothèse, est-ce que quelqu'un a un contre-exemple? Et là, on est vraiment en train de travailler au contenu et non pas sur la personne. La reformulation, oui, alors ça c'est une des premières compétences à attraper pour faire des discussions philo, c'est qu'il va falloir que vous soyez capable de redire ce que la personne vient de dire en mettant l'accent sur quel est l'élément qui fait bascule dans ce qu'elle a dit. Parce que, bah oui, votre groupe démarre et il ne sait pas forcément s'écouter. Et donc, pour une première séance, quasiment la balle repasse quasiment de façon systématique par l'animateur. Quelqu'un prend la parole et on reformule, on redit ce qui vient d'être dit. Tout simplement parce que ça permet de ralentir un peu le rythme aussi. Les premières discussions, en général, il y a beaucoup trop de matière. On a tous envie de dire que, tiens, tout à coup, j'ai pensé un truc et j'ai envie de le dire. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de matière. Et on a besoin d'un rythme un peu ralenti. Parce qu'il va falloir que je puisse penser mon truc, mais aussi écouter ce que les autres disent. Et puis, de repasser par l'animateur, donc ça ralentit puisqu'on dit un peu deux fois la même chose, un peu différemment. Et ça vous permet aussi de faire et de la dynamique de recherche et de la dynamique de groupe. Des fois, je n'arrive pas à entendre ce qui vient d'être dit parce que je n'ai pas d'affinité avec la personne qui vient de parler. Et de réentendre cette parole dans la bouche de l'animateur, qui en général est parole de vérité, tout à coup, je vais pouvoir m'intéresser à cette pensée-là. Hein, donc, il y a vraiment ça en termes de dynamique de groupe comme de dynamique de la recherche. Je vous disais, il va falloir juger non pas est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit, mais est-ce que la construction est recevable. Ça permet aux autres d'inviter les autres à regarder si la construction est recevable. Et non pas seulement si je suis d'accord avec ce qui a été dit ou si j'aime bien la personne qui vient de parler. Quelques conseils aussi sur l'armature philo. Alors ça, ceux qui ont fait philo, normalement, ceux qui ont fait philo à l'université, vous le savez, ceux qui ont fait juste la classe de terminale, c'est pas comme ça qu'on vous présente la philosophie. Donc c'est des grands jalons, finalement, que vous n'avez peut-être jamais croisés. Une des questions récurrentes quand on met en place des discussions philo, c'est qu'il y a un moment, on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de faire. Est-ce que j'en fais ou est-ce que j'en fais pas? Donc, notre première paire, c'est si on gratouille les grosses thématiques qui sont au bac, on en fait. C'est contre-intuitif et du coup, ça, c'est faux parce que je peux parler de la justice ou de la liberté au café du commerce et c'est typiquement une question du café du commerce. C'est typiquement une discussion au café du commerce. Donc, c'est pas le de quoi je parle qui va faire que c'est philosophique, mais c'est le comment j'en parle et comment je le questionne. Donc, ces armatures-là, ça vous permet de retrouver les grands champs de la philosophie. Si on est en train de s'interroger sur pourquoi c'est beau, comment c'est beau, qu'est-ce qui fait que je trouve c'est beau, on est dans le champ de l'esthétique, c'est bon, on fait de la philo. Si on est en train de s'interroger sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, comment est-ce que je peux déterminer ça, c'est bon, on est dans le champ de la logique. Si on est en train de se dire comment est-ce que je sais ça, d'où ça vient savoir, comment je l'ai construit, c'est de l'épistémologie, c'est bon aussi. Si on est en train de s'interroger sur est-ce que c'est bien, alors derrière l'éthique, c'est éthique ou morale, hein, c'est deux mots qui sont équivalents. On avait un peu laissé tomber morale parce que avec morale, pendant un moment, on avait l'impression qu'il y avait une connotation religieuse. Donc, certains préfèrent éthique, d'autres utilisent morale, enfin, c'est équivalent. Mais si je suis en train de m'interroger sur cette notion-là du bien et du mal, c'est bon, je suis dans l'éthique ou je suis dans la morale. Le juste, le légal, on est dans le champ de la politique. Alors la politique, c'est pas les élections, la politique politicienne, hein, mais c'est comment est-ce qu'on vit ensemble, comment est-ce que ça s'articule. Et du coup, comment est-ce qu'on constitue un ensemble, un groupe. Donc si on est en train de se dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est légitime, tout ça c'est bon, on est dans le champ de la politique. Là on arrive sur des questions un peu plus tordues qui paraissent avec des gros mots pour le coup, c'est, je vous ai mis sur la question de l'être, de l'inné, de l'accidentel, on est dans l'ontologie. Alors ça paraît, on se dit mais jamais on se pose ces questions-là. En fait c'est le moment où, et ça peut être des questions très triviales, ça peut être, bon, j'ai été méchant une fois, je suis méchant ? Où j'ai été méchant. On est là-dedans. Est-ce que je suis méchant? Est-ce que la méchanceté fait partie de ma nature? Donc, est-ce que c'est dans mon être? Est-ce que c'est une propriété? Ou est-ce que c'est une, ce que dirait Aristote, une qualité? C'est là, mais ça pourrait ne pas être là. Si je vous donne un exemple pour éclairer un peu ça, pour une automobile, la propriété d'une automobile, c'est le moteur. S'il n'y a pas de moteur, c'est pas une automobile. C'est ce qu'il a défini, c'est ce qu'il arrange dans automobile. S'il n'y a pas ça, ça change de nature. Par contre, la couleur de l'automobile, c'est une qualité. Elle a forcément une couleur, mais qu'elle soit noire ou qu'elle soit jaune, ça ne change pas sa nature. Ben, c'est ça, la question de l'inné et de l'accidentel, cette question de la propriété de la qualité. Donc ma méchanceté, là, c'était de la qualité, c'était la couleur de l'automobile ou c'était le moteur de l'automobile? Bon ben voilà, vraiment à chaque fois qu'on se... Pareil, là, une maladie, c'est une qualité ou c'est dans la nature? C'est un truc, c'est là mais ça aurait pu être autre chose puis ça peut s'en aller? Ou c'est dans ma nature, c'est là puis ce sera toujours là? Hein, c'est ces grosses questions-là. Alors, si on est sur les questions de l'être abstrait, comment est-ce qu'on peut attraper ces choses-là? Si on est en train de discuter de est-ce que la nature est bonne ou mauvaise? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la justice, c'est quelque chose? Parce qu'un acte juste, je peux le voir. Maintenant, la justice, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On est dans la métaphysique. Donc, toutes ces grandes questions-là, toutes ces grandes façons de questionner font partie des discussions philo. Donc si vous êtes dans une de ces grandes façons de questionner, c'est bon, on est dedans. Et ça peut être sur des choses très triviales. Hein. C'est pas forcément les notions qu'on a vues au bac. Dernière chose, alors là on passe vraiment à quelque chose de technique, et je finirai là-dessus, parce que je pense que ça y est, je vous aurais déjà bien rempli le crâne. Les outils de la recherche, il va falloir quand même avoir ces outils de la recherche philosophique, de la recherche épistémologique, du comment est-ce que je construis mon savoir, comment est-ce que je construis ma pensée. Et il va falloir être attentif. Première chose, bon ça c'est facile, c'est les définitions. Il va falloir faire attention aux définitions parce que très souvent, dans le quotidien, on fonctionne comme ça et ça marche assez bien. On part du principe que sous un mot, il y a une définition et quand on dit un mot, on met tous la même chose dessous. Au moment où on veut penser de façon fine, on va s'apercevoir que les choses sont bien différentes. Hein. Sous un même mot, je peux avoir plein d'acceptions différentes, donc je peux avoir plein de représentations différentes, plein d'objets différents qui sont valides. Puis parfois même, sous deux mots différents, en fait, je suis en train de parler de la même chose. Hein. Le grand classique, c'est entendre et écouter. Pour certains, entendre quelqu'un, c'est il fait du bruit, et puis l'écouter, c'est le comprendre, l'accompagner. Et puis pour les autres, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas une équipe qui se trompe et une équipe qui ajuste. C'est juste ces mots-là, ça dépend. Chaque mot a une sorte de coloration. Et selon la coloration que je vais mettre au mot, ben, je ne mets pas la même chose dessous. Et donc, il va falloir qu'on vérifie ce qu'on met sous nos mots. Parce que sinon, on ne va juste pas se comprendre pendant toute la séance. Donc ça, c'est un des outils. Alors, je vous l'ai mis en premier, il est en haut de la feuille, mais ce n'est pas le premier. C'est pas, si on démarre une discussion philo, on commence par aller chercher toutes les définitions. Hein, ça sort, c'est de l'oral, quoi. On n'est pas dans de l'écrit. Donc ça sort quand ça sort, et ça sort n'importe comment. Il n'y a pas d'ordonnancement, il n'y a pas de petit 1, petit 2, petit 3 quand on est dans l'oral. Ça commence par un bout, toutes ces étapes-là viendront, il y aura tous ces outils qui sont mobilisés, mais il n'y en a pas un qu'on doit utiliser en premier. Et il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Je vous mets cela parce que cela, on peut les mettre en place assez rapidement. Le hypothèse, exemple, contre-exemple et l'affinage de l'hypothèse, moi, c'est la première chose que je mets en place, quel que soit l'âge des participants, parce que la première chose, c'est d'essayer d'avoir ce climat de bienveillance. Et la première chose pour avoir un climat de bienveillance, un climat d'écoute, c'est de réussir à mettre ma pensée sous forme d'hypothèse. Si ma pensée, c'est non sous forme de thèse, si c'est comme ça, ben, c'est fini, il n'y a plus besoin de discuter. On n'est juste pas d'accord. Mais en tout cas, on ne va pas continuer à discuter. Donc la première chose, c'est d'apprendre à dire « il me semble que c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est comme ça ». Et de s'ouvrir à la recherche de donc, l'hypothèse, qui fait qu'une hypothèse est une hypothèse, c'est une idée que je vais chercher à vérifier. Et c'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on soit d'accord pour aller regarder, aller ouvrir cette boîte-là. Avec l'hypothèse, ben, pour vérifier qu'une hypothèse fonctionne, il va falloir qu'on aille mobiliser des exemples. Et pour vérifier qu'elle fonctionne vraiment, il va aussi falloir qu'on aille mobiliser les contre-exemples. Parce qu'une fois que j'aurai mes contre-exemples, ça va affiner mon hypothèse. En général, dans le quotidien, quand quelqu'un fait un contre-exemple, on jette notre idée. On se dit, bon, ben, l'idée n'était pas bonne, c'est fini. Là, c'est pas du tout ça l'idée. C'est s'il y a un contre-exemple, mon hypothèse, elle est bonne, ma piste, elle est bonne. Par contre, elle manque. En regardant le réel, on s'aperçoit qu'on peut encore l'affiner. Donc quand quelqu'un produit un contre-exemple pour mon hypothèse, il est en train de travailler à mon idée. Donc c'est vraiment là où on commence à mettre en place quelque chose de l'ordre de l'écoute. C'est-à-dire que quand quelqu'un donne quelque chose qui pourtant est une sorte de désaccord avec ce que je viens de dire, il m'aide à affiner ce que je viens de faire. Donc c'est vraiment cette étape-là, il me faut une hypothèse, il me faut des exemples pour cette hypothèse, des contre-exemples toujours sur cette même hypothèse, et puis ensuite je vais aller affiner cette hypothèse. La reformulation, ça on en a déjà parlé, hein, donc il va falloir réussir. Ça va être à vous de le faire, et puis vous allez voir que petit à petit, le groupe va le faire aussi. Hein, les autres vont le faire aussi. Parce qu'ils vous auront vu faire des reformulations, ils vous auront entendu dire reformulation. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Le premier groupe d'enfants que j'avais eu, c'était des enfants de CP et CE1. Et au bout de la deuxième séance, j'avais une petite gyène qui disait « Moi, je veux reformuler ce qu'Elias a dit. » Et elle a fait une reformulation. Parce que bah, si on dit le mot devant l'objet, devant le faire, ben, voilà, on apprend par mimétisme. L'identification des présupposés, alors c'est un mot que j'ai déjà utilisé tout à l'heure et pourtant je ne vous l'ai pas défini. Un présupposé, dès qu'on parle, il y a des présupposés. Mon présupposé, c'est même pas quelque chose que je pense vrai, c'est un « c'est ». C'est une évidence. Hein, c'est quelque chose qui... C'est vraiment le papier de mon écrit. Hein, c'est la trame de fond. Et donc, il va falloir identifier ces présupposés parce que parfois, ben, si on n'a pas le même... On a l'impression, quand on... Notre présupposé, on a l'impression que c'est le seul valable et possible. Et puis, ben, il s'avère que des fois, mon présupposé peut être un préjugé. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas valable, en fait. Et puis, ben, parfois, mon présupposé est un présupposé. Il est valable, il est valide, mais c'est pas le seul valable et valide. Et si on ne se met pas d'accord, si on ne met pas au jour ces présupposés, on ne s'entendra pas. Pour vous donner un petit exemple quotidien, c'est sur toutes les évaluations, en général, on met nos critères sont présupposés. Hein, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un de foot, vous allez dire « machin, c'est le meilleur joueur du monde », et puis l'autre va dire bah « non, c'est bidule ». On n'a pas donné nos critères de « qu'est-ce que c'est qu'un bon joueur de foot ?» et rester dans les présupposés. Si pour l'un, un bon joueur de foot, c'est quelqu'un qui met des buts, et si pour l'autre, un bon joueur de foot, c'est celui qui fait les passes, ben oui, au bout, ça donne pas le même résultat au bout. Donc il va falloir mettre au jour ces choses-là, mettre au jour nos évidences, travailler sur nos évidences. Les sophismes, il va falloir aussi faire attention aux sophismes. Donc les sophismes, ce sont des choses qui se présentent comme des raisonnements bien construits, mais où il y a une erreur à l'intérieur. Et ça, c'est justement ce qui va saper la perfection d'un raisonnement. Et c'est ce qui va aussi emporter l'adhésion. Alors, en général, en discussion philo, une fois que la dynamique est lancée, on a plutôt des erreurs de raisonnement que des sophismes. Un sophisme, c'est vraiment « j'ai pour intention de manipuler ». J'ai pour intention d'amener l'autre à penser, à arriver à la conclusion que j'ai choisie pour lui. Ça peut se faire avec une bonne ou une mauvaise intention. On n'est pas forcément mal intentionné quand on fait des sophismes. En pédagogie, on utilise des paquets et des paquets de sophismes. Donc, je peux le faire si je vous dis, je vous donne un exemple, c'est un truc qui s'appelle un faux dilemme. Si vous avez déjà fait à manger pour un enfant en lui disant est-ce que tu veux des haricots verts ou des brocolis, vous faites un sophisme. Vous êtes en train de faire un faux dilemme. Vous lui donnez l'impression qu'il y a le choix, alors qu'en fait, la vraie question, c'est où sont les frites? Et là, vous lui avez dit légumes verts ou légumes verts. C'est un sophisme. C'est une façon d'arriver à la conclusion, ok, je vais manger des légumes verts. Donc, c'est vraiment le faux dilemme. C'est vous présenter, il y a deux variantes du faux dilemme. On présente deux choix opposés et on donne l'impression que, il y a que ces deux choix qui existent. Ou bien t'es mon ami, ou bien t'es mon ennemi. On peut être camarade, on peut être collègue, on peut être plein d'autres choses que ou ami ou ennemi. Ou bien je donne deux fois la même chose et, tout en donnant l'impression qu'il y a un choix à faire alors que le choix est déjà fait. Donc un sophisme, c'est manipuler. Je vous dis, nous, on a souvent, ce qu'on va plus souvent trouver, c'est des erreurs de raisonnement. Je suis de bonne foi, je me fais avoir moi-même par le sophisme que je suis en train d'utiliser. Le premier, c'est l'attaque à la personne. Et ça, on le retrouve de façon très quotidienne dans le « je suis d'accord avec toi » ou le « je suis pas d'accord avec toi ». On n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Et ça, c'est bien différent. Et ça, c'est pareil, c'est la première chose qu'on va poser parce qu'on est en train de réfléchir, on est en train de construire notre pensée. Il va falloir qu'elle puisse bouger. Et il se trouve que ma pensée est beaucoup plus mobile que mon identité. Donc, je ne suis pas ce que je dis. Il va falloir que je puisse bouger ces choses-là. Et puis, c'est pas parce que je dis quelque chose de crétin que je suis crétine. Je suis en train d'essayer des choses. Et donc, il va falloir que je puisse... poser des choses, les bricoler, ça n'a pas une forme définitive au moment où je m'exprime. Et c'est bien normal. La généralisation abuse, donc dans l'attaque à la personne, il y a plus de variantes que ça au moment où ça devient vraiment un sophisme, mais là, on va s'arrêter à celle-là pour aujourd'hui. La généralisation abusive, ça c'est pareil, c'est un des sophismes où on se prend tous les pieds dans ce tapis-là. C'est j'ai quelques exemples d'un truc et puis j'en arrive à... ils sont tous comme ça. Ma voisine, il est arrivé ça à ma voisine, donc, je sais pas quoi, ma voisine a mangé des brocolis, elle a plus besoin de ses lunettes, les brocolis guérissent ses problèmes de vue. On a tous envie de tirer des chaînes de conséquences, de causes-conséquences très rapides comme ça. On fait tout ça. Donc là, il va falloir faire attention j'ai des exemples, mais pour que mon hypothèse soit bonne, il faut non seulement que j'ai des exemples, puis il m'en faut un paquet, puis il faut surtout que j'ai pas de contre-exemple. Parce que s'il y a un contre-exemple, mon hypothèse manque de nuances. Donc on va essayer de ne pas faire de généralisation abusive. Le biais de confirmation, c'est les tapis dans lesquels on se prend tous les pieds. Le biais de confirmation, c'est j'ai bien envie que cette hypothèse soit vraie. Et comme j'ai bien envie qu'elle soit vraie, elle l'est. Donc on va sélectionner, en fait, pour vous donner un exemple, est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire de il y a plus d'accouchements les soirs de pleine lune? C'est un truc qui revient. Tous les 5 ans, il y a des équipes qui travaillent sur cette question pour essayer de démonter ce truc-là. Et tous les 5 ans, on publie les résultats. Et chaque fois, c'est très clair. Et puis, chaque fois, ça revient. Donc le protocole est un peu toujours le même. On va interviewer du personnel de maternité. Donc, c'est pas micro-trottoir aux Champs-Élysées. C'est pas n'importe qui. On interroge des experts, des gens qui sont en contact avec la situation, donc qui sont un avis éclairé sur la situation. On leur demande si, oui ou non, il y a plus d'accouchements les soirs de pleine lune. en général, à plus de 70%, la réponse est oui, il y a plus d'accouchements les soirs de pleine lune. Puis on regarde les statistiques de la maternité en question, au niveau national, au niveau international, que dalle. Il n'y a aucune relation entre la pleine lune et le nombre d'accouchements. Comment est-ce que c'est possible qu'à plus de 70%, ces experts répondent oui à cette question, alors qu'il n'y a rien? Ben, c'est notre copain de biais de confirmation. C'est ça qui se passe. Hein. C'est parce que c'est poétique de se dire que la lune a une influence sur les accouchements. On a envie que ce soit vrai, quoi. C'est quand même chouette, ce truc, cette idée. Et puis, deuxième partie du biais de confirmation, les jours de pleine lune où il y a beaucoup de travail, il y a forcément quelqu'un qui va dire « Ah, bah oui, c'est la pleine lune ». Et donc ça, on le mémorise. Par contre, les jours où c'est la pleine lune et il n'y a pas beaucoup de travail, personne ne va citer la pleine lune. Donc on va oublier ces occurrences-là. On va sélectionner, finalement, dans le réel. On aura vécu tous les moments, mais on va sélectionner dans le réel les moments qui valident notre hypothèse. Donc je vous dis sur cette hypothèse-là, parce que voilà, elle est rigolote, mais ça, on le fait tout le temps. On sélectionne les moments du réel qui confirment nos pensées déjà établies. Donc vraiment, l'outil, c'est recherche de contre-exemples. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des contre-exemples? Est-ce qu'on n'est pas à côté, hein? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté? Le biais de sélection, bon là, celui-là, il est vraiment... Non, c'est vrai. Non, on peut le faire de façon honnête aussi. J'étais en train de me dire, oui, c'est un vrai sophisme, le biais de sélection. Non, le biais de sélection, c'est pareil. C'est, vous pouvez tirer une conclusion, mais en fait, de l'expérience que vous avez, sauf qu'il se trouve que votre expérience est biaisée parce que vous êtes dans un cas particulier. Pour éclairer ça, il y a une histoire assez rigolote qui est j'ai une hypothèse. Mon hypothèse, c'est toutes les Irlandaises sont rousses. Ok. Donc je vais à Dublin, première Irlandaise elle est rousse, deuxième elle est rousse, 500e elle est rousse, elles sont toutes rousses. Qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas au congrès des Irlandaises rousses? Et ça arrive, non mais vous rigolez, mais ça nous est arrivé en science, on s'est payé quelquefois le congrès des Irlandaises rousses. Il y a eu pendant assez longtemps, on pensait que la maltraitance était héréditaire. Vous avez entendu parler de ça? Ben on était dans le congrès des Irlandaises rousses. Est-ce que vous voyez pourquoi on était dans le congrès des Irlandaises rousses? Oui, c'est ça, il y avait un biais de sélection dans notre panel. Donc, je vous dis, le congrès des Irlandaises rousses, on se dit non, mais jamais on fait ça. On le fait, et on se voit pas le faire. Et même quand on sait qu'on était dans un congrès d'Irlandaises rousses, c'est compliqué de voir où il était ce congrès. Hein. Et donc, en effet, dans le cas de la maltraitance, en fait, on a fait notre panel, nos éléments de départ, c'était les enfants signalés. Okay, donc il y a des enfants qui ont été maltraités, ces enfants ont été signalés, et on a interrogé les parents. Mais par contre, tous les parents qui ne maltraitaient pas leur enfant, qui avaient été maltraités et qui ne maltraitaient pas leurs parents n'ont pas été signalés, puisque leur enfant n'était pas signalé. Donc on n'a pas interviewé toutes ces personnes-là. On a un biais de sélection au départ. Donc vraiment, quand on a une hypothèse, on peut avoir des données de terrain, ça nous fait fabriquer une hypothèse, mais il va falloir refaire une recherche à partir de l'hypothèse. On ne part pas du terrain... C'est pas juste les éléments qu'on a déjà ramassés. Sinon, on risque d'être dans le congrès des Irlandaises rousses. Hein, donc, il va falloir faire ça. Il va falloir vérifier que nos exemples, même si on a beaucoup, vérifier qu'ils ne sortent pas tous du même cadre particulier. Corrélation et causalité, donc ça, c'est pareil. C'est des erreurs qu'on fait tout le temps. On a envie de mettre des liens de cause à effet là où il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a un petit test qui avait été fait par un collègue de psychocognitive. Il y a une étude qui a été faite dans une école, c'est une vraie étude, hein, c'était un test d'orthographe. Et l'hypothèse qu'on peut tirer de cette étude, c'est que plus les gens qui ont passé ce test d'orthographe ont de grands pieds, et moins ils font d'erreurs d'orthographe. C'est ça, quand on regarde la courbe, c'est ça. Hein. On regarde la taille des pieds, on regarde le nombre d'erreurs d'orthographe. Et... ça paraît corrélé. Est-ce que vous arrivez à voir pourquoi? Quelle est la variable cachée?
En rapport avec la poésie, les pieds.
Ouais, c'est ça. Alors c'est ça, le Nicolas Gauvry qui avait donné ça à ses étudiants en psycho. Ils ont essayé de rationaliser, ce qu'on fait toujours, hein, on essaie toujours de rationaliser a posteriori. Donc ils se sont dit, bon, alors on sait que la confiance en soi, ça a un impact sur les compétences scolaires, peut-être d'avoir de plus grands pieds, ça fait une meilleure assise au sol, puis du coup, je vous ai donné le cadre rapidement, donc peut-être c'est ça qui vous gêne. Où est-ce que je le fais, mon test d'orthographe? Dans une école. Qu'est-ce qui peut se passer entre les pieds et les compétences en orthographe dans une école? C'est quoi ma variable cachée? c'est pas la taille des pieds qui fait la compétence en orthographe. Par contre, il y a un truc qui joue et sur ma taille de pied et sur mes compétences en orthographe.
L'âge.
Ben ouais, c'est l'âge. Ben ouais, c'est l'âge. Mais n'empêche que quand on voit la courbe, l'âge, on le voit pas du tout, quoi. Donc ça, c'est une corrélation causalité. Il y a un truc qui agit sur les deux. Ou bon, parfois il y a même rien du tout. Hein. Il y a juste deux faits. Parfois c'est juste, il y en a un qui se produit juste avant l'autre et puis on a l'impression que l'un est la cause de l'autre. Hein. Mais parfois c'est ça. Il y a une variable cachée. Il va falloir réussir à mettre le doigt sur ces variables cachées. Bon, tout ça, c'est ce qui va nous permettre de penser plus finement, d'éveiller l'esprit critique. Et puis du coup, normalement, on devrait avoir un esprit démocratique plus affiné aussi. Hein. On devrait ne pas se faire prendre dans des pièges idiots. On devrait dire moins d'idioties. On devrait réussir à fonctionner un peu mieux. Tout ça, c'est les travaux sur le développement de la pensée. Et on sait aujourd'hui, grâce aux avancées de la psychocognitive, qu'on est tous là-dedans. On a dépassé Piaget. Il y a un moment, on pensait qu'il y avait des stades du raisonnement, que selon notre âge, on pouvait faire certains raisonnements et on n'avait pas accès à d'autres. Aujourd'hui, on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a des règles de logique. Si on ne les connaît pas encore, on ne peut pas les appliquer. Mais nous, on a beau les connaître, ces règles de logique, on n'arrive pas toujours à les appliquer. Hein, donc, ça marche pas. C'est pas en stade. C'est vraiment, on a trois systèmes de pensée. Avec Oudé, là, on était sur deux avec Kahneman. Donc, on a un système de pensée rationnelle qui fonctionne bien, mais qui prend beaucoup de temps. Et puis, on a un système plus intuitif qui fonctionne super bien, mais qui, deux fois, a des petits ratés. Et donc, c'est ça, l'idée des discussions philo, c'est ça. Hein, c'est de réussir à, quand je suis dans un système intuitif, de réussir à débrayer, et ça, c'est ce troisième système qui a été identifié par Olivier Oudé, pour mettre en place, pour déclencher ce système 2, là. Hein, donc, c'est vraiment essayer de débrayer. J'ai réfléchi un peu trop vite, du coup, je suis tombée dans le panneau. Donc, on va essayer de muscler cette capacité à... Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je déclencherai pas là un petit coup de système 2? Non, c'est ça qu'on essaye de faire. Voilà, c'est fini pour tout ce qui était exposé général. Je voulais vous montrer, parce que c'est souvent une question que vous avez quand on finit ça, c'est ça, vous dessinez, c'est ça, je suis face à beaucoup de gens qui se destinent à faire ça avec des enfants? Ou pas? Ouais, un peu.
Vous pouvez lever la main. Qui est en rapport avec un public enfant.
Oui.
Alors voilà. Ouais. L'été, parce que j'étais un public d'enfant. L'analyse d'enfant.
Alors je vous montre, parce que souvent on se dit, ouais, mais hypothèse, définition, machin, tout ça, ça a l'air bien compliqué pour des petites têtes. C'est un document qui a été monté, donc il manque des parties, mais on voit assez bien la facilité avec laquelle ça se met en place.
Pour faire notre atelier philo, on va avoir besoin d'outils, des outils, pas comme des outils pour bricoler, des outils de pensée. On va utiliser les définitions. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une définition?
Oui.
Oui. Qu'est-ce que c'est la définition de cette chose?
Un stylo.
Un stylo, donc ça c'est une définition. Mathilde, toi tu disais?
Ce qui dessine.
Ce qui dessine, donc on peut définir par la fonction, on peut définir un objet en disant à quoi il sert. Ouais. Hein, tout ça c'est des définitions. Quand on explique un mot avec d'autres mots, en expliquant à quoi ça sert, c'est des définitions. Ça va, ça? On va utiliser aussi hypothèse pour faire de la philo. Vous avez déjà entendu ce mot-là?
Oui.
Ah, on sait plus que ça, on sait plus la définition du mot hypothèse. Une hypothèse, c'est un « il me semble que peut-être que je pense que... » Une idée dont je ne suis pas sûre, et puis que je vais chercher à vérifier. Par exemple, je vais faire une hypothèse et puis on va chercher des exemples pour mon hypothèse. Je vais dire, les enfants ont les yeux marrons. Est-ce qu'on aurait des exemples pour mon hypothèse?
Eh ben, Nils, il a les yeux marrons foncés.
Du coup, ce serait un exemple ou un contre-exemple pour notre
hypothèse?
Un exemple. Ok. Est-ce qu'on a encore d'autres exemples ou d'autres contre-exemples?
Émi,
ce serait un exemple ou un contre-exemple pour notre hypothèse? Un contre-exemple, hein, parce qu'elle nous ferait dire non, les enfants n'ont pas les yeux marrons.
Elle a les yeux bleu clair.
Ouais.
Moi aussi.
Toi aussi, tu seras un contre-exemple pour notre hypothèse. Ok. Mon hypothèse, elle n'est pas fausse, puisqu'on a bien des exemples, et pourtant elle n'est pas complètement juste, puisqu'on a des contre-exemples. Comment est-ce que je pourrais modifier mon hypothèse? Comment est-ce que je pourrais dire autrement pour que cette fois elle soit vraie? On ne peut pas dire tous les enfants ont les yeux marrons. Comment est-ce qu'on pourrait dire?
Je sais pas. Il y en a qui ont les yeux bleus, il y en a qui ont les yeux marrons.
Ok, il y en a qui ont les yeux clairs, qui ont les yeux marrons. Ça va pour hypothèse, exemple et contre-exemple?
Oui.
Ouais. Ok.
Est-ce que vous avez des questions?
Moi, c'était l'adresse mail, c'était véronique.delille@.
C'est là. Ouh.